Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le petit prophète Joël. On avait commencé à voir juste un petit survol du petit prophète Joël. Joël, combien de petits prophètes? On avait dit 12. Ça commence avec Osée, ça finit avec Malachie. Malachie. Ça finit avec Malachie, d'accord? Osée, Joël, Amos, Tobias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Voilà, donc on va regarder encore. Donc Osée. Joël, pardon. Joël. On avait considéré le chapitre 1 un petit peu la dernière fois et on avait vu que Joël était un petit prophète. On ne pouvait pas trop le situer parce qu'il n'est pas dit du temps du roi un tel, etc. Ou la troisième année du règne du roi, comme il s'est dit pour certains prophètes. Donc on avait du mal à situer vraiment la rédaction de la prophétie. Et puis lui-même. N'est pas connu. Tout ce qu'on sait, qu'il est descendant de Pétuel, mais bon, mais Pétuel, on ne sait pas non plus qui c'est. Et donc, ça fait que certains commentateurs disent que cette prophétie, elle est quand même, quelque part, ça donne un caractère intemporel, hein, quelque part qui s'applique un peu à toutes les époques, un petit peu. Et le premier chapitre décrivait une invasion de sauterelles qui a eu lieu à un moment donné dans l'histoire du peuple. Et Joël rappelle cela au peuple. Il veut même que, on avait considéré ça, hein, que les vieillards racontent cela, qu'on maintienne le souvenir de cet événement. Pourquoi? Parce que il disait que cet événement est lié avec ce que Dieu fait. Et ce n'est pas juste quelque chose de climatique, simplement, mais c'est quelque chose, un événement tragique qui est arrivé, qui a laissé beaucoup de traces, beaucoup de dégâts, mais qu'il faut considérer dans une certaine perspective. Et donc, il dit au chapitre 2, il parle d'une autre chose qui va maintenant arriver. Donc, le chapitre 1, il parle de quelque chose qui est déjà passé, mais le chapitre 2, il parle d'un événement catastrophique qui va arriver après. C'est ce qu'il dit, regardez, on va lire le chapitre 2, il dit: sonnez de la trompette en Sion, faites retentir sur la montagne sainte, faites-la retentir sur la montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. C'est ce que nous avons chanté, hein. Du Seigneur, le jour est proche, dans le cantique que nous venons de chanter. Et ils disent là, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Et ce n'est pas un jour de réjouissance, probablement. Il dit, c'est un jour de ténèbres, verset 2, et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Donc là, il parle de quelque chose qui va arriver, et puis il va décrire, donc il appelle même à ce que l'on le dise, qu'on sonne de la trompette, c'est une manière de dire, annoncez-le, publiez-le, mais de manière claire, forte, qu'on puisse l'entendre, pas de manière cachée. Et puis il va décrire un peu ce qui va se passer. Alors, il n'y a pas toujours accord sur ce qui est dit ici. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle invasion de sauterelles? Parce qu'il y a des choses qui font un petit peu référence. Ou est-ce que c'est une invasion d'une armée militaire particulière qui va se produire? Mais généralement, on dit que c'est ici un jour qu'il annonce, qui est un jour de jugement. Le jour du jugement de Dieu, parce qu'il appelle cela le jour de l'Éternel. On avait vu que dans Joël, c'est mentionné combien de fois? 5 fois. Hein. Si vous lisez tout le chapitre, beaucoup, chapitre 2, Et puis une fois, je crois, au chapitre 3, où il est question du jour de l'Éternel. Et donc c'est probablement, on pense que comme c'est écrit, c'est probablement il parle d'un jugement terrible de Dieu qui vient. Alors, je l'ai dit, hein, c'est présenté comme un jour terrible. Il donne des détails. Regardons, on va lire hein, Joël chapitre 2, verset 3 maintenant. Il dit, devant lui, la moitié du verset 3, voici un peuple, du verset 2, pardon, milieu du verset 2, on n'a pas lu, voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Et à les entendre, on dirait un bruit de chars. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang et ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se dispersent dans les villes, courent les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissante. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir ? Jusqu'ici, la lecture. Alors, c'est vrai que ça fait penser un peu aux sauterelles quand même quand il parle ici. Surtout quand il dit au verset 4, allez voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. Et dans la Bible, les sauterelles sont parfois comparées aux cavaliers ou aux chevaux. Dans Job ou dans d'autres textes, hein, on a à la fois la comparaison entre les sauterelles et les chevaux et les cavaliers. C'est pour ça que parfois, certains pensent qu'il s'agit probablement d'une nouvelle invasion de sauterelles, encore plus terrible, ou peut-être simplement une manière de parler d'une armée. Quoi qu'il en soit, je crois que ce que Joël veut souligner ici, c'est le caractère terrible de ce jour-là. Il dit qui ? Le verset 11 dit « Car le jour de l'Éternel est grand et il est terrible, qui pourra le soutenir ?» Et donc, il annonce quelque chose qui sera extrêmement destructeur. Et ailleurs dans la Bible, hein, quand on parle du jour de l'Éternel, il y a d'autres endroits où il est question du jour de l'Éternel, que ce soit dans l'Ancien Testament, parfois sous une certaine forme dans le Nouveau Testament, eh bien c'est toujours en termes similaires, de choses terribles, de choses cruelles. Et on va regarder quelques textes, Ésaïe 13 par exemple, verset 6, regardez Ésaïe 13, verset 6. Ésaïe chapitre 13 et au verset 6, il dit « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Au verset 9, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. » Ça, comme ça, c'est décrit. Puis on en trouve encore à Ézéchiel 30, versets 2 et 4. Ézéchiel 30, versets 2 et 4. Il dit, « Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux, gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera les temps des nations. Et puis Amos 5, 18, un dernier passage, il y en a d'autres, hein, mais je n'ai choisi que celui-là, Amos 5, 18. Donc Amos, c'est facile à trouver parce que c'est juste à côté de Joël, Amos 5, 18, où il dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Et vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. » C'est quelqu'un qui pense trouver la sécurité quelque part. Il fuit un gros animal qui pourrait le terrasser en un rien de temps. Il arrive chez lui, il pense qu'il est, il est à l'abri. Hein. Il s'essuie le front, il pose sa main sur le mur pour s'appuyer, se reposer et il se fait piquer par un scorpion. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, c'est une manière de dire qu'on ne pourra pas échapper. Quoi. Il n'y a rien qui pourrait mettre à l'abri. Et le verset 20 dit, il dit au verset 20, « Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière, n'est-il pas obscur et sans éclat ?» Donc c'est vraiment quelque chose de terrible, hein? Pas de luminosité, la difficulté, ce n'est pas exactement ce que Joël anticipe ici. Mais dans le Nouveau Testament aussi, on trouve quelque chose de similaire. Et Jésus dit en Matthieu 24, versets 29 et 30, je vous lis, quand il parle de ce qui arrivera à la fin en Matthieu 24, et au verset 29, il dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Ça ressemble à ce que dit le prophète Ésaïe ici, quand on a lu Ésaïe 13, avec cet obscurcissement des astres, etc. Et puis il dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Je crois qu'après ce passage, hein, il parle un peu de la punition qu'il y aura dans ce même passage de Matthieu. Donc ce jour-là est annoncé comme un jour de jugement aussi. Et puis l'apôtre Pierre dit aussi ceci, hein, 2 Pierre 3, 10. Il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Donc 2 Pierre 3, 10. « En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Et donc là encore, on a ce caractère catastrophique du jour de l'Éternel. Ce caractère catastrophique du jour de l'Éternel qui est mis en évidence. Et avec toutes ces références que l'on a dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on peut dire que qui est entendu souvent par le jour de l'Éternel, ça correspond à un jour du jugement de Dieu. C'est un jour qui est à venir et qui est bien pire que toutes les catastrophes que l'on peut connaître. C'est ça que Joël dit ici. Il dit, dites aux vieillards de vous rappeler la catastrophe des sauterelles. Comment ça a été terrible. Rien, ce qui était un jardin d'Éden, c'est devenu une terre déserte. C'était terrible. Il dit, racontez-le. Mais je vous dis une chose. Il y a un jour qui vient et qui est infiniment plus terrible que tout ce que vous pouvez connaître comme catastrophe. C'est un peu dans ce sens-là qu'il dit cela. Et donc, il faut lire. Il dit qu'il faut lire l'invasion des sauterelles comme le présage ou le prélude de quelque chose qui vient et qui est beaucoup plus grand. Et donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il est important de bien considérer les catastrophes qui arrivent dans notre monde. Les guerres, les famines, les épidémies et toutes ces choses. On peut les considérer comme des événements ponctuels. Voilà, qui arrive après tout, c'est la vie. Et puis, c'est le dérèglement climatique ou c'est autre chose, ou c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Donc, il y a des guerres, il y a voilà, du terrorisme. Hein, vous êtes au courant de ce qui se passe en Israël actuellement, tout cela. Donc, c'est terrible, c'est des choses terribles qui arrivent. Mais quand on lit l'Écriture, on voit que Dieu ne veut pas qu'on reste, sans réflexion sur les catastrophes. Joël dit, souvenez-vous de l'invasion, mais je vous dis qu'il y a quelque chose de plus terrible. Donc l'invasion doit être lue comme le signe annonciateur de quelque chose de plus terrible. Les catastrophes doivent être lues comme le prélude, le présage d'un jugement de Dieu qui sera encore plus terrible que toutes ces catastrophes, ces guerres que l'on peut connaître. Et donc, le jour de l'Éternel, c'est un avertissement que Joël donne quand il dit « Le jour de l'Éternel est proche, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Le jour de l'Éternel vient comme un voleur, disait Jésus. » Donc, quand on voit quelque chose de terrible qui arrive, on doit penser « Le jour de l'Éternel vient. » Le jour de l'Éternel vient. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce que il faut ça. Bien, quelqu'un a dit parce que notre problème, c'est que nous avons du mal à considérer combien nous sommes pécheurs individuellement, et puis combien Dieu est un Dieu de grâce, voilà. Et qu'il nous prévient, qu'il nous avertit des choses. Mais parfois, il faut être dans des événements catastrophiques pour qu'on puisse se remettre à réfléchir ou à penser aux choses qui sont les choses essentielles, que l'on prie ou que l'on fasse d'autres choses. Et Dieu, c'est Job qui disait, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, parfois, mais l'homme n'y prend garde. Donc Dieu est obligé d'utiliser souvent des événements, un jugement catastrophique sur quelque chose, pour nous avertir du jugement plus grand qui vient et qui va être terrible et qui va frapper tous ceux qui ne le connaissent pas et qui n'auront pas mis leur confiance en lui. Mais quand il fait cela, il ne le fait pas simplement pour, si vous regardez la suite de Joël 2, il ne le fait pas simplement pour informer, pour dire que ça va venir, mais pour quoi faire de manière précise. C'est très clair. Pour maintenant, verset 12, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Donc, quelle est la raison pour laquelle a eu lieu ce cataclysme et qu'il doit être compris comme l'annonce de quelque chose de plus terrible et qui va détruire cette fois-ci définitivement, qui vient? Le but, c'est que le cœur se tourne vers là, une véritable repentance. C'est ce qu'il dit ici. Maintenant, donc c'est un appel à la repentance, hein. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas, ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui une bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique de l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries, aux nations. Pourquoi, dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Donc c'est un appel vraiment vibrant de la part de Dieu lui-même à la repentance. De la part de Dieu lui-même à la repentance. Et c'est une constance, on pourrait dire, dans la Bible, cet appel à revenir à moi, dit l'Éternel. On ne peut pas voir tous les passages qui en parlent, mais dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup « Revenez à moi, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, et voilà ce que je ferai si vous revenez. » Je crois que c'est dans Jérémie, il dit, Dieu dit, je parle de détruire, de frapper, etc. Mais si le peuple revient, alors je reviens moi-même sur le mal que j'ai pensé lui faire. Et donc, donc je lis Ézéchiel 18, 21, il dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Donc, la volonté de Dieu n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente et qu'il vive, qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Et Dieu utilise les choses terribles pour cela, à ce dessein. Lui-même, il le dit. Il dit qu'il le fait pour ça. Regardez dans Amos, juste à côté, Amos chapitre 4 et au verset 6, Amos 4 et au verset 6, il dit, « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre ne l'a pas reçu, c'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la niel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Voyez donc les sauterelles, encore une fois. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Vous voyez, donc c'est Dieu lui-même qui dit ça, hein, qui dit, voilà tout ce que j'ai fait, tous les malheurs, sauterelles, catastrophes climatiques, etc., toutes ces choses-là, mort de vos, tuerie de vos jeunes gens, c'est moi qui l'ai fait. Il dit, et vous ne vous êtes pas repenti. Donc, ça nous enseigne vraiment une grande leçon. Nous devons toujours considérer les choses terribles qui arrivent comme des appels à la repentance de la part de Dieu. Certes, elles sont catastrophiques, certes, elles sont douloureuses, certes, elles sont liées aussi au péché des hommes, mais elles n'en demeurent pas moins des instruments que Dieu utilise pour nous appeler nous-mêmes et appeler aussi les autres à la repentance. Il y a un commentateur qui dit ceci, il dit que Dieu se sert d'une catastrophe comme d'un mégaphone pour attirer notre attention sur notre culpabilité et notre perdition et sur l'imminence de son juste jugement si nous ne nous repentons pas. Et Dieu utilise ça comme un mégaphone, comme quelque chose qui va amplifier sa voix puisqu'on ne l'entend pas, qui va nous secouer pour nous amener à la repentance et pour nous dire « Attention, il y a pire que cela qui arrive si vous ne vous repentez pas. » Et c'est exactement ce que Jésus a dit dans Luc 13. Vous vous rappelez, lorsque ces Juifs sont venus le voir et puis pour lui parler du fait que Pilate avait assassiné des adorateurs. Hein. Et puis Luc 13, verset 2, on peut regarder ça très rapidement. Luc 13, verset 2, et il dit, verset 1, « En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Il dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes qui, sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et donc Jésus dit, les catastrophes, ce n'est pas pour discuter si celui-ci est plus pécheur que celui-là, celui-ci il est mort parce qu'il était plus pécheur. Non, non, il dit, vous êtes tous des pécheurs. Il dit, vous devez votre vie qu'à la grâce de Dieu et vous devez considérer ce qui s'est passé comme un appel pour vous à vous repentir. Parce que si vous ne vous repentez pas, alors vous allez pas simplement mourir. Il ne dit pas vous mourrez comme eux, il dit vous périrez. Et là, c'est une destruction finale, c'est-à-dire on va être confronté au jugement de Dieu. Alors, c'est pour ça que Joël dit ici, et Dieu dit par Joël, revenez, revenez dans une véritable repentance, pas simplement quelque chose de superficiel. Hein. Il dit, ne déchirez pas simplement vos vêtements. Vous savez, le peuple d'Israël, il y avait une attitude quand, dans cette époque, hein, dans cette culture, quand on était dans la désolation, qu'est-ce qu'on fait hein? On déchire son vêtement, hein. On a beaucoup de scènes comme cela, hein. et on se roule dans la cendre pour manifester que l'on est, voilà, que l'on est abattu. Et il dit, mais votre repentance ne doit pas être une repentance extérieure simplement, ou voilà, où vous montrez votre désolation. Ça doit être vos cœurs profondément qui doit se déchirer. C'est une vraie repentance qui atteint vraiment le cœur, et qui se traduit aussi par une manifestation extérieure. Hein, parce qu'il dit, regardez ce qu'il dit en Joël, là, 2, il dit, revenez à moi de tout votre cœur, mais avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Hein. Il dit, bon, il peut y avoir des manifestations extérieures, une vraie repentance se montre par des manifestations extérieures. C'est pas simplement le fait de dire « je me repens ». Non, il dit, mais c'est quelque chose qui doit mener à un véritable cœur brisé, comme dans Psaume 51, un cœur contrit, d'accord, où ça se voit que le cœur a été profondément conscient de son péché. Il a confessé son péché, et on le voit hein, quand on lit le psaume 51, on ne va pas le faire ce soir, mais David dit, mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre... D'accord. Et donc c'est une véritable confession devant Dieu, pas simplement le fait de dire j'ai péché, ce n'est pas une repentance. Pharaon a dit j'ai péché, Saül a dit j'ai péché, et David aussi, lorsque Nathan est venu le voir, il a dit, j'ai péché. Et Dieu lui a dit, Nathan lui a dit, Dieu pardonne ton péché. C'était une vraie confession de péché. Ce n'était pas juste quelque chose de superficiel ici. Voyez. Et donc, c'est ça que Joël dit ici. Il dit, attention, revenez à Dieu maintenant de tout votre cœur, de tout votre cœur. Et pas de manière superficielle, avec une conversion, une reconnaissance de votre péché, détournez-vous de cela. Le revenez, c'est faire demi-tour, hein. C'est tourner autour. Le sens littéral, c'est tourner autour, hein. Donc c'est vraiment comme dans la conversion dans le Nouveau Testament, c'est le fait de faire un demi-tour. Et c'est à ce à quoi il appelle le peuple ici. Il dit que tout ce qui se passe, c'est dans cette optique que Dieu le fait. Et puis aussi, il dit une repentance qui repose sur la grâce de Dieu. Regardez le verset 13 à la fin. Il dit, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. C'est-à-dire que la repentance ne repose pas sur ce que sur nous-mêmes, mais elle compte vraiment sur le fait que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu toujours disposé à pardonner. Et ce qui montre que Dieu est un Dieu de grâce, c'est qu'il envoie l'invasion des sauterelles avant son jugement final, pour avertir par quelque chose qui est douloureux, qu'il y a quelque chose de plus douloureux que ça, et qu'il faut se repentir. Il manifeste ainsi sa grâce. Et pourquoi, c'est pourquoi, je crois qu'il y a un psaume qui dit, je ne me rappelle plus dans les termes, mais il dit, voilà, avant d'être affligé, je m'égarais. Je crois qu'il dit comme ça le psaume. Et le psalmiste lui dit, voilà, avant, j'étais pas affligé par Dieu, bon, je faisais n'importe quoi. Mais maintenant que Dieu m'a affligé, voilà, ça a parlé à mon cœur et je suis de nouveau sur le chemin comme il faut. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin ce soir, mais ce qu'on veut retenir, c'est que dans ce livre, dans cette prophétie de Joël, c'est que Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu de grâce, qui avertit. Il peut avertir une fois, deux fois, trois fois, mais qui avertit, et que les cataclysmes, les choses catastrophiques qui se passent dans notre monde ne doivent pas être considérées comme tout le monde les considère, de manière détachée, de manière seulement scientifique, de manière, je veux dire, un peu blasée, hein, mais elles doivent être considérées comme des mégaphones, pour reprendre cette métaphore du commentateur, comme des mégaphones de Dieu qui nous disent « Attention, il y a quelque chose de plus terrible qui vient. » On doit le prendre pour nous-mêmes, mais aussi on doit le prendre pour les autres. Joël dit « Sonnez de la trompette ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Dites-le, annoncez-le ». Et donc c'est aussi si j'ose dire, pour le chrétien, les cataclysmes, ce qui se passe dans le monde, doit être aussi un appel à aller vers les gens pour leur dire que le danger vient. Parfois, on oublie nous-mêmes de le faire. Hein, on est blasé, on s'installe dans une routine et ça nous secoue. C'est pas, quand quelque chose se passe, c'est pas juste pour aller sur les réseaux sociaux, voir tout ce qui se passe, quels sont les tenants et aboutissants, mais cela doit nous faire réfléchir. Attention, bientôt, le Seigneur va revenir et il y a un jugement qui sera plus terrible que cela pour ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ce cataclysme doit me rappeler cela. Et je dois obéir à Dieu qui me dit, publiez, sonnez de la trompette, dites-le autour de vous. Et que ce soit pour nous l'occasion de témoigner et d'appeler les hommes et les femmes aussi à la repentance. Que le Seigneur nous aide à considérer le jour de l'Éternel. Ça pourrait être le titre de notre étude ce soir, le jour de l'Éternel. Alors, je vais m'arrêter là et puis nous allons prendre quelques sujets de prière.